Serin.
Bonsoir à toutes et à tous. Les Européens au chevet de l'Ukraine, plusieurs dirigeants du vieux continent se rendront demain à Washington en compagnie de Volodymyr Zelensky. Nous irons à Bruxelles dès le début de ce journal, alors qu'aux États-Unis, le ton est à l'optimisme, mais les intentions de Donald Trump restent encore bien floues. En Israël, l'armée accentue son offensive à Gaza alors qu'une partie du pays est à l'arrêt. Les Israéliens dans la rue pour exiger la fin de la guerre et la libération des otages. Un pacte national pour l'urgence climatique, la proposition du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, alors que l'ouest du pays est toujours en proie aux flammes, l'Europe du Sud qui entre dans sa troisième semaine d'alerte vague de chaleur. Cette fois-ci, il ne sera pas seul. Plusieurs dirigeants européens se rendront demain à Washington pour accompagner Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Partiront notamment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron. Une réunion de la coalition des volontaires, les alliés de l'Ukraine, s'est tenue cet après-midi en visioconférence aux côtés du président ukrainien qui est à Bruxelles. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, il a appelé l'Europe à rester unie pour soutenir son pays et faire pression pour obtenir un cessez-le-feu.
Il est essentiel que l'Europe présente un front aussi uni que celui qu'on a connu en 2022, lors du début de l'agression. Cette unité nous permettra d'atteindre une paix. Cette unité doit rester aussi intense. Nous devons mettre un terme au bain de sang. Les exigences de M. Poutine sont nombreuses, nous ne les connaissons pas toutes, mais s'il y en a autant que nous l'avons entendu, il sera difficile de toutes les étudier, surtout sous la pression des armes. Nous avons donc besoin d'un cessez-le-feu et nous devons trouver un accord final rapidement. Nous allons en discuter à Washington. Poutine ne s'arrêtera pas là, mais il doit s'arrêter.
Et les Européens font donc bloc autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Europe qui souhaite avoir voix au chapitre. La correspondance à Bruxelles, Laxmi Lota.
Volodymyr Zelensky a demandé à ses alliés de venir avec lui. Le président ukrainien sera donc accompagné du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz, de la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni ou encore du secrétaire général de l'OTAN et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Ce sont des moments difficiles. Seule l'Ukraine peut décider de son destin. Mais l'Ukraine pourra toujours compter sur l'Europe.
Il faut dire que la dernière visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis en février avait tourné au fiasco. Donald Trump et le vice-président américain s'en étaient pris verbalement à lui devant les journalistes. Le président ukrainien assure aujourd'hui ne rien savoir de ce que Vladimir Poutine et le président américain se sont dit en Alaska. Cet après-midi, la coalition des volontaires s'est réunie en visioconférence. Il s'agit de 31 pays, la majorité des pays européens, plus la Turquie, le Canada et l'OTAN. Objectif, s'assurer d'avoir une position commune demain dans le bureau ovale, notamment sur la sécurité de l'Ukraine en cas de nouvelle agression et l'intégrité territoriale du pays. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force, a rappelé Ursula von der Leyen.
Et cette visioconférence qui vient de se terminer, le président français Emmanuel Macron est en train de s'exprimer depuis le fort de Brégançon dans le Var. Nous voulons une paix robuste et durable qui respecte le droit international et qui respecte la souveraineté territoriale, a déclaré le chef de l'État. La question des garanties de sécurité devrait donc occuper une place centrale dans la réunion de demain. Du côté des États-Unis, Donald Trump vante de grands progrès avec la Russie pour aboutir à un plan de paix. À suivre, écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Nous prenons la direction de New York pour retrouver notre correspondant Loïc Loury. Bonsoir.
Bonsoir Jeanne.
Le prochain chapitre va donc s'écrire demain à la Maison-Blanche, mais les intentions du président américain restent particulièrement obscures.
Oui, alors à écouter les déclarations des uns et des autres, tout va pour le mieux. Hein. Donald Trump, vous le rappeliez, parlait ce matin de grands progrès obtenus avec la Russie. Son émissaire spécial, Steve Witkoff, lui se dit optimiste. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, réitère des menaces de sanctions à l'égard de Moscou. Pourtant, et malgré les apparences, Volodymyr Zelensky et les Européens ont des raisons de s'inquiéter. On ne sait pas, rappelle le président ukrainien, ce qui s'est dit à Anchorage entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Poutine. La Russie aurait accepté, dit Witkoff, les garanties de sécurité proposées par Washington, mais lesquelles ? Eh bien, on ne sait pas. Et Moscou, poursuit-il, aurait fait des concessions territoriales en vue d'un accord de paix, ce qui veut surtout dire que Washington discute avec le Kremlin d'une annexion de territoires ukrainiens. Autant dire que Volodymyr Zelensky avait intérêt à venir entourer demain à la Maison-Blanche, 6 mois après avoir été humilié dans le bureau ovale. Le vent a tourné une fois encore à la Maison-Blanche en faveur du Kremlin.
Loïc Loury. Au lendemain d'une 5e nuit d'affrontement avec les forces de l'ordre, le président serbe promet une réponse forte aux manifestants anticorruption. Des dizaines de civils et plus de 130 policiers ont jusque-là été blessés dans les heurts. La nuit dernière, 2 permanences du parti au pouvoir ont été saccagées. La Serbie connaît une vague de manifestations quasi quotidiennes depuis novembre 2024 et l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, un accident qui avait fait 16 morts et que les opposants au régime imputent à la corruption du pouvoir en place. L'armée israélienne entend désormais se concentrer sur la ville de Gaza, déclaration du chef d'état-major israélien. L'armée qui annonce approuver le plan pour la prochaine phase de la guerre dans l'enclave palestinienne. Un communiqué alors qu'au même moment, une partie du pays est à l'arrêt. Les Israéliens sont appelés à faire grève pour demander la fin de la guerre et le retour de tous les otages. Alice Moreno, vous étiez cet après-midi avec les manifestants au pied de la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Il y a des habitués qui se mobilisent chaque semaine depuis des mois, comme cette franco-israélienne arrivée à Jérusalem en 1967.
Je pense que la situation est catastrophique, elle est absurde. Notre gouvernement est complètement cinglé.
Elle déplore la décision du gouvernement d'étendre l'offensive à toute la bande de Gaza.
Je pense que c'est une énorme bêtise. Je ne connais pas dans l'histoire un seul cas où un pays a gagné sur des guérilleros terroristes. Ça fait 40 ans que je hurle qu'il faut une solution politique.
Sarah craint pour la sécurité des otages encore retenus dans l'enclave.
Nous jouons avec les vies des gens juste pour des raisons politiques, pour que cette coalition survive. Et ce n'est pas humain, pas juif, pas moral, rien à quoi je puisse m'identifier.
L'épuisement des troupes est aussi l'une des préoccupations majeures des manifestants.
Ce n'est pas seulement pour les otages. Mon mari, mes frères, mes amis sont tous réservistes. C'est pour cela que mon mari n'est pas là aujourd'hui. En dehors des otages, je ne veux pas que cette guerre continue.
Une partie de plus en plus importante de la population ne comprend plus les objectifs de guerre affichés par le gouvernement et n'attend qu'une chose, qu'un accord soit trouvé avec le Hamas.
Alice Moreno, le processus pour parvenir à un accord de paix en République démocratique du Congo se poursuit aujourd'hui. Un projet d'accord de paix a été partagé à la RDC et au groupe armé M23. Les deux parties se sont engagées à parvenir à un accord de cessez-le-feu mi-juillet. Des négociations doivent avoir lieu dans quelques jours à Doha, au Qatar, en vue d'un accord global. Les bureaux de vote ont ouvert en Bolivie. Quelques 8 millions de Boliviens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Alors que la gauche est au pouvoir depuis presque 20 ans, ces élections pourraient être celles du changement, car 2 candidats de droite sont en tête des sondages. Quant à la gauche, elle est divisée et surtout plombée par la crise économique qui touche le pays. La correspondance de Nils Sabin à La Paz.
Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h dans toute la Bolivie. Les électeurs doivent départager 8 candidats qui briguent la présidence, élire 130 députés et 36 sénateurs. Le pays andin est en grande partie à l'arrêt. Interdiction de circuler en voiture sans autorisation, les gares sont fermées et les vols nationaux également suspendus. Alors que la gauche règne sans partage depuis presque 20 ans, ces élections générales sont très incertaines. Une crise économique touche le pays avec une forte inflation, des pénuries de carburant et de dollars. Et le gouvernement actuel est très impopulaire car jugé responsable de cette situation par la population. Résultat, 2 candidats de droite sont en tête de tous les sondages. Des enquêtes d'opinion très imprécises en Bolivie, mais qui donnent espoir à l'opposition. La gauche est également divisée pour ces élections. L'ex-président Evo Morales n'a pas pu se présenter comme candidat. Il a donc appelé ses partisans au vote nul. Celui-ci devrait être bien plus important que lors des dernières élections. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 16h heure locale et les premiers résultats sont attendus en milieu de soirée. En cas de second tour, celui-ci aura lieu au mois d'octobre.
L'Indonésie fête aujourd'hui les 80 ans de son indépendance, un anniversaire avec en toile de fond un mouvement de protestation de la jeunesse indonésienne contre le président accusé de dérive autoritaire, au point qu'aujourd'hui ce n'est pas le drapeau rouge et blanc du pays qui parade dans les rues, mais un drapeau de pirate, et pas n'importe lequel, celui du manga One Piece. Il est devenu en quelques semaines le symbole de la contestation en Indonésie, au point que le gouvernement a décidé de le bannir de l'espace public. Les explications de Tobias Kleser.
Une tête de mort couronnée d'un chapeau de paille sur fond noir. C'est le drapeau du manga japonais One Piece, devenu symbole de la contestation indonésienne. Preuve de la puissance de la pop culture comme vecteur de diffusion. C'est ce qu'explique Henry Jenkins, professeur à l'Université de Californie et spécialiste des cultures participatives.
Aujourd'hui, grâce à Internet, au streaming, nous avons accès à la culture pop des uns et des autres. C'est cela qui rapproche les jeunes au-delà des frontières, et c'est aussi ce qui déroute les institutions et les dirigeants politiques, car ils sont habitués à concevoir des symboles locaux ou nationalistes, alors qu'ils sont désormais mondiaux.
Pavillon pirate, costume de la servante écarlate, signe des Hunger Games, la culture pop s'impose comme un étendard des luttes citoyennes. En 2011, Fandom Forward, une communauté de fans d'Harry Potter, a réussi à faire plier Warner Bros. En l'obligeant à acheter du chocolat issu du commerce équitable pour les produits dérivés de la saga. Selon Henry Jenkins, la pop culture dépasse la simple sphère culturelle, elle sensibilise les fans aux luttes sociales et les pousse à rejoindre les manifestations.
Parce qu'on ne se contente pas de lutter contre Trump, on combat en tant qu'armée de Dumbledore. Peu importe le type de récit héroïque que l'on construit, il aide à former une identité collective permettant aux gens de continuer d'avancer.
En 2020, les fans de K-pop sont en partie responsables du fiasco d'un meeting de Donald Trump. Plus tôt, ils avaient donné de la visibilité au mouvement Black Lives Matter sur les réseaux, prouvant ainsi que la pop culture peut devenir un outil de contre-pouvoir.
Air Canada va reprendre progressivement ses vols ce soir après l'intervention du gouvernement pour mettre fin à la grève de 10 000 hôtesses et stewards déclenchée hier. La grève a paralysé les activités de la compagnie aérienne hier et ce matin. Le sud de l'Europe, toujours en proie aux incendies en cette fin de semaine. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez s'est rendu aujourd'hui en Galice, une des régions les plus touchées par les feux. Sur place, il a proposé un pacte national pour l'urgence climatique. La correspondance à Madrid, Mathieu de Taillac.
Dans la province de Cáceres, dans l'ouest de l'Espagne, plus de 4000 habitants ont été évacués. Le terrible incendie de Jarilla, complètement hors de contrôle, risquait d'atteindre leur maison. En Castille-Léon, quelques 3000 autres personnes ont été appelées à quitter leur domicile, alors que 27 feux sont actifs dans la région. En Galice, enfin, 12 feux ont brûlé plus de 50 000 hectares. C'est de là que le chef de l'exécutif, Pedro Sanchez, a pris la parole.
Nous allons proposer un grand pacte d'État pour atténuer l'urgence climatique et nous y adapter. Cela concerne toutes les administrations publiques, mais aussi les groupes parlementaires, l'ensemble de la société civile, la science, l'entreprise, les syndicats, en somme, l'ensemble du pays.
En définitive, au conjunto del país.
Il faut que l'urgence climatique soit en dehors de la lutte partisane, que l'on se concentre sur la réponse scientifique et que l'on agisse en conséquence.
Le changement climatique, a expliqué Sanchez, n'est pas une abstraction. Les incendies ou les terribles inondations de Valence en sont les manifestations les plus concrètes en Espagne. Il a prévu de présenter en septembre les contours de son initiative politique.
Mathieu de Taillac et les incendies qui menacent aussi le sud de la France. 6 départements restent en vigilance rouge ce soir. Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales ainsi que l'Aude risquent extrême au feu de forêt dans l'est de ce département, alors que l'incendie dans le massif des Corbières n'est toujours pas éteint et mobilise encore sur place 330 pompiers. Dans l'actualité politique, Jean-Luc Mélenchon met la pression sur François Bayrou. Dans la tribune dimanche, le leader de la France insoumise appelle à censurer le Premier ministre dès la rentrée parlementaire et sans attendre l'examen du prochain budget. Il annonce également que son parti rejoint l'appel « Bloquons tout », un appel relayé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et qui vise à geler toute activité le 10 septembre prochain. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, en déplacement demain à Mayotte. Une visite alors que la rentrée scolaire a lieu dans une semaine sur l'archipel. La ministre vient constater l'avancée des engagements pris par le gouvernement après le passage de Chido en décembre. décembre dernier. Avec le vote de la loi d'urgence pour Mayotte votée en février, l'État s'est notamment engagé à prendre en charge la reconstruction du bâti scolaire. On termine ce journal avec un mot du temps pour demain. 13 départements du pourtour méditerranéen seront encore concernés par une vigilance orange canicule. Côté ciel, un temps très lumineux à l'est, alors qu'ailleurs des grisailles sont à prévoir du Poitou-Charentes jusque sur l'Aquitaine. Et puis des orages éclateront dans la matinée sur la pointe du Finistère. Côté température, il fera 13 degrés à Reims demain matin, 17 à Brest et 25 à Nice. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Martin Descloseaux à la technique, Ruben Carmazine.